Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, a tout un départ depuis qu'elle a accédé au pouvoir. La reine est morte, puis là, il y a un plan de relance économique assez particulier.
Oui, Yasmine, on n'a plus lu les conservateurs qu'on avait là. Alors, elle arrive, puis elle dit, bon, on a des problèmes économiques majeurs, là. Regardez, là, 10% d'inflation, une augmentation, non, une multiplication du chiffre de la facture énergétique. Et en plus, la monnaie est en train de chuter. Alors, ça va pas juste mal, ça va très, très mal. Et elle arrive en disant, c'est le classique d'un premier ministre qui arrive au pouvoir entre deux élections. À partir de maintenant, hier, c'était pas bon. À partir de maintenant, ça change. Des mesures énergiques. Alors, elle annonce, en gros, le gel des factures d'énergie. Alors, ça va continuer à monter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État va payer, mais vous allez pas payer plus que X. Et autre mesure majeure, mais là vraiment majeure, une réduction générale des taux d'imposition et des taxes.
Mais ça, c'est tout le monde est surpris là-dessus de dire, on sait que les conservateurs généraux, ils veulent diminuer la fiscalité, le poids de la fiscalité sur les électeurs, mais là, ça n'a aucune commune mesure avec la réalité.
C'est très important, puis c'est correct de vouloir réduire le fardeau fiscal. Par contre, comment est-ce qu'on va le faire? Mais avant même d'arriver là, il y a un concept économique qu'on pourrait mettre dans la catégorie, moi j'appellerais ça là, débile. C'est-à-dire, pour lutter contre l'inflation, je vais augmenter le revenu disponible des consommateurs afin qu'ils dépensent plus. Ça lutte pas contre l'inflation, ça c'est
inflationniste ça.
C'est de l'inflation qui nourrit l'inflation. Puis là-dessus, d'ailleurs quand on regarde les plans là, à peu près tous les partis au Québec veulent mettre de l'argent dans les poches des Québécois pour lutter contre l'inflation. À tout prendre, là, le moins pire, c'est celui du Parti québécois, qui envoie de l'argent de manière ponctuelle aux ménages aux plus faibles revenus.
Qui en ont besoin, pas pour tout le monde.
Non. Québec solidaire, lui, donne des réductions de taxes quand moi, je vais aller manger au Ritz-Carlton. Alors, c'est peut-être pas génial, mais il va vraiment y avoir, du côté du Royaume-Uni, là, une augmentation importante. Puis là, ça devrait pas lutter à l'inflation en soi. Mais là, maintenant, c'est comment je finance ça? Est-ce que je vais m'asseoir, puis là, je vais réduire à la Thatcher, là, réduire les opérations du gouvernement, réduire les dépenses publiques? Non, non, non. On met ça sur la dette. Parce que là, la dette, c'est plus grave. Là. Et là, c'est vraiment, on est à des années-lumière de Thatcher, et il y a tellement de tout ça qui est financé par la dette que là, il est arrivé deux choses. Les marchés ont pris peur. La monnaie s'est mise à chuter. Et là, on est dans un monde là abracabrantesque. Le Fonds monétaire international sort une communication en disant « Peut-être que ça commence à nous inquiéter. Là. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on fait. » Alors que le Fonds monétaire international dise à des pays comme la France « Vous êtes pas capable de gérer les finances publiques comme du monde » ou pire, la Belgique. C'est normal, ça arrive tout le temps, c'est un classique. Que ce soit le Royaume-Uni, là, ça marche plus. Là.
Oui, parce que le Royaume-Uni a un historique de conservateurs fiscaux qui n'aiment pas la dette, qui veulent lutter contre la dette et les dépenses.
De prudence. Jusqu'à l'ère Thatcher, là, il y a eu des grandes années de n'importe quoi, mais depuis l'ère Thatcher, qui était poursuivie par l'ère Blair, il y avait une certaine, je dirais, responsabilité avec l'idée que tu peux pas avoir des dépenses publiques hors contrôle. Là, c'est assez difficile. Et là, ce que l'on découvre, c'est un gouvernement et une nouvelle première ministre qui court après le temps. Les conservateurs sont sous le parti, le Labour, qui est l'opposition officielle, depuis un an dans les sondages. Alors, la guerre en Ukraine, ça n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a à peu près aucune différence dans la position du Labour, l'opposition officielle et des conservateurs. Et là, en gros, le Labour est à 42% dans les sondages, les conservateurs à 33%. Alors là, quand tu commences à essayer une nouvelle entourloupette pour transformer du jour au lendemain ton positionnement dans les sondages, mais ça donne ce genre de résultat-là. On va voir comment Mme Truss va se dépatouiller avec les semaines qui viennent, mais à date, elle est mieux de prier pour que ça marche.
Et clairement mieux de prier que pour que ça marche et que les prix du gaz n'augmentent pas plus que ce qui est attendu, d'autant plus qu'il y a une grande incertitude sur le marché actuellement. Sinon, parlons du Kurdistan irakien qui a connu des bombardements de la part de l'Iran. Ça commence à être compliqué dans cette région du pays.
C'est très compliqué parce que le Kurdistan, alors d'abord, quand on parle du Kurdistan, il faut parler, est-ce que c'est le grand ou le petit? Alors, le grand Kurdistan, c'est le peuple kurde qui, lui, est éparpillé, si vous voulez, au sein de plusieurs pays, la Turquie, puis c'est du monde. 14 millions de Kurdes en Turquie, 6 millions en Iran, 6 millions en Irak, 2 millions en Syrie, 2 millions en Arménie. Et moi, je suis allé, c'est un coin de pays magnifique, et vous avez un nationalisme civique, quand même extraordinaire, parce que les Kurdes ont toutes sortes de religions, les Kurdes parlent plusieurs langues, mais l'identité kurde est extraordinairement forte, même avec une diaspora internationale fascinante. Et il faut remonter à l'Empire ottoman. En gros, les Kurdes, c'était comme une unité au sein de l'Empire ottoman. Arrive la Première Guerre mondiale, et là, c'est jamais une bonne nouvelle pour le futur. Tu prends ton crayon, tu redessines des frontières, puis là, ben, tu te rends compte qu'il y a des peuples des deux côtés. Pendant longtemps, il y avait la promesse de donner aux Kurdes leur propre pays. Ça a été oublié. Le seul endroit où ils ont un semblant de souveraineté, c'est en Irak. Alors, le nord de l'Irak, à peu près, c'est le Kurdistan irakien, une région semi-quasi-autonome, autogérée. Et là-dessus, c'est devenu, parce que c'est la région des Kurdes la mieux gérée, par les Kurdes eux-mêmes, une espèce de refuge. Et très régulièrement, parce que les autres nations kurdes demandent leur indépendance ou plus d'autonomie, ben, il y a des gens qui traversent la frontière. Et là, l'Iran est allé, avec des drones, bombarder pour cibler littéralement des gens qui dérangent. Et c'est passablement écœurant. Puis c'est un grand classique. Quand c'est pas la Turquie qui décide de se payer la tête des Kurdes, et d'ailleurs, la Turquie avait dit à la Finlande et à la Suède, mais vous donnez des armes aux Kurdes, là, si vous arrêtez pas ça, je vous laisse pas rentrer dans l'OTAN.
Ils donnent des armes et ils donnent aussi surtout des refuges politiques à plusieurs des contestataires et des têtes d'affiche du mouvement kurde turc.
Exactement. Alors, quand c'est pas la Turquie, ben là, c'est l'Iran, bombardement, 13 morts, dans lequel il y avait une femme enceinte, des journalistes, bref, là, un portrait assez terrible. Ce qui nous rappelle qu'il y a une vieille marotte au Kurdistan, chez les Kurdes, qui disent les seuls amis des Kurdes sont les montagnes. Parce que c'est les seuls qu'ils n'ont pas trahis. Très souvent, depuis toujours, on a tout promis aux Kurdes. La pire exemple, c'est pendant la première guerre du Golfe. Alors, Saddam Hussein est vraiment le tyran du moment. Les Américains disent, pendant qu'on est en train d'essayer de sacrer une volée à Saddam Hussein au Koweït, vous les Kurdes, rebellez-vous contre Saddam Hussein. Et ils le font. Contre la promesse qu'après
Sauf
ça, on sera là pour eux.
Ils en ont mangé toute une après.
Parce que les Américains, finalement, ont décidé de ne pas entrer à Bagdad et de laisser Saddam Hussein dans sa chaise. Et après ça, Saddam Hussein a dit, bon, mais maintenant que les Américains sont partis, il les a littéralement gazés.
Absolument.
C'est une tentative de génocide à l'arme chimique. Il y a un cimetière là-bas et ça fait vraiment des frissons dans le dos. Et l'enjeu du Kurdistan, vous allez en entendre parler encore et encore et encore, parce que plus le Kurdistan irakien, qui est une zone autogérée, qui marche assez bien, qui a sa propre armée d'ailleurs, plus compétente et plus efficace que l'armée irakienne elle-même, bien évidemment, ça crée une pression et eux, ils veulent leur indépendance, ils veulent leur souveraineté. Et la pression, bien, c'est que la Turquie veut pas que elle, son bout de Kurdistan, devienne un autre pays. L'Arménie non plus, la Syrie non plus, l'Iran non plus. Et pourquoi aussi est-ce que c'est un enjeu? C'est pas juste politique et territorial. En dessous des pieds des Kurdes, il y a rien d'important là. Du gaz naturel, du pétrole, puis de l'eau.
Oh.
En plein milieu du Moyen-Orient, vous avez des chutes absolument magnifiques.
Alors rien
vous imaginez, la grande question, c'est à qui ira le contrôle de ces ressources-là? Alors le Kurdistan, le grand Kurdistan, les Kurdes, mais particulièrement à travers la lorgnette du Kurdistan irakien, c'est peut-être l'équation la plus compliquée, la plus explosive, mais peut-être aussi la plus prometteuse de toute la dynamique des fois bien, bien complexe qu'est le Moyen-Orient.
Et on se rappelle que notamment les femmes kurdes, mais pas juste les femmes, les hommes kurdes aussi, ont contribué à combattre l'État islamique en Syrie. Ils représentaient une sorte de... faisaient certaines milices pour essayer de résister et tenir tête à l'État islamique qui, dans le temps, a été très hégémonique, puis essayer d'aller prendre des villages, village après village. N'ont pas eu tant d'appui que ça par les autorités occidentales.
Et là-dessus, c'est un peu quelque chose que l'on dit peu, mais après les Israéliens, en termes d'alliés de l'Occident là, ou des États-Unis, là, après les Israéliens, c'est les Kurdes et le Kurdistan irakien. Mais c'est toujours un peu complexe parce que dès qu'ils demandent un peu plus d'autonomie, ben là, vous aviez le porte-parole de la Maison-Blanche qui disait, ben ça, c'est une distraction, c'est pas ça qu'on veut. Alors, on est très heureux de compter sur nos alliés fidèles que sont les Kurdes, mais quand eux nous demandent d'honorer leurs promesses ou de les soutenir un peu, ben là, comme diraient les Kurdes, nos seuls vrais amis, c'est les montagnes.
Est-ce que une des raisons pour lesquelles la Turquie, notamment, ne voudrait pas que le peuple kurde soit rassemblé au sein d'un pays reconnu, un Kurdistan, un grand Kurdistan, disons-le comme ça, c'est parce qu'ils ont peur des alliés potentiels, des alliances potentielles de ce Kurdistan-là, notamment avec l'Occident, la Turquie qui a toujours joué sur différents plans de part et d'autre.
S'il y a 8 tableaux, la Turquie joue sur 8 tableaux.
C'est ça.
Mais il y a une préoccupation aussi légitime du côté de la Turquie, c'est presque le quart de la population, c'est presque le tiers du territoire. Alors, nommez-moi un pays qui dit, mais moi c'est correct, là, j'ai des amis turcs qui me disent, c'est pas le grand Kurdistan qui me dérange, puis c'est pas l'autonomie des Kurdes en Irak qui me dérange, mais je vais pas vous laisser aller avec le tiers de mon pays, ce qui est une préoccupation légitime. Mais à la fin, si demain matin il y avait un Kurdistan irakien absolument indépendant, il y aurait un nouveau rapport de force dans un pays ou est-ce que, dans un coin de pays, ou est-ce que c'est pas tant que le rapport de force qui est là est meilleur ou pire, mais il est connu. C'est la vieille expression, je préfère le diable que je connais que celui que je connais pas.
Absolument.
Est-ce qu'on veut encore un Moyen-Orient, pas nécessairement mieux, mais à apprendre, une nouvelle dynamique à apprendre? Je pense qu'on n'aura pas le choix d'en venir là. Mais en attendant, tous les autres se disent, le monde est très compliqué, peut-être un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis ça, c'est un peu le postulat général de l'Occident jusqu'à maintenant.
Guillaume Lavoie, toujours passionnant. Merci beaucoup. À demain.
Au plaisir.